La plante, c'est la vie. Nous avons une dimension spirituelle qui est absente. Or, on ne résout pas toutes les questions par la mécanique.
CO2, mon amour.
Il manque une dimension dans cette écologie qui devrait tenir compte de valeurs qui sont beaucoup moins distinguables, beaucoup moins évidentes, mais qui pourtant sont évidentes en notre fort intérieur. Et justement, la nature est là pour nous faire douter.
Denis Chessoux.
D'abord douter de nous-mêmes et nous renforcer, quand on l'observe finement, de notre vulnérabilité à tout niveau.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, le dernier de la saison, CO2 mon amour. Et parce qu'on n'attend pas le changement et que nous sommes nous-mêmes le changement, et puis cette émission tente toujours de rapprocher les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui à la technique Élise Christophe et Maxime Ingrand, et assisté de Camille Blanès avec notre stagiaire Alice Michaud, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Commence toujours par une petite humeur entre les épreuves du bac et la Coupe du Monde. Eh bien, l'arbitre, normalement en chef de l'environnement, Nicolas Hulot, ministre d'État, numéro 2 dans l'ordre protocolaire, vient de recevoir lui aussi ses notes. Eh oui, le site Reporter a créé le Huloscope. Alors, le Huloscope, il s'agit de voir les actions à la fois nuisibles dont il est directement responsable, celles dont il partage la responsabilité, et puis les bonnes, bien sûr, aussi, qu'il a pu faire passer. Alors, la note, c'est 69-31. 69 de plutôt mauvais contre 31 de passable, bien et peut mieux faire. Autrement dit, on va dire une légère baffe qui n'a rien à voir avec un score de football, mais qui s'apparente à celui du monde de l'Ovalie, le rugby. Et le rugby, comme l'écologie, c'est un sport de rude. Oui, faut aller à la castagne, hein. Un sport de costaud où l'on entre entre deux mêlées viriles. Et ben, l'exploit individuel a parfois du panache, mais il s'agit surtout de jouer collectif. Or, ce n'est pas le cas de notre équipe nationale en matière d'environnement. On aurait plutôt tendance à jouer chacun dans son couloir. Bon, c'est pas nouveau, hein. L'environnement, ça contrarie les neurones aimantés par le court terme et le PIB. Et tenez un exemple, si la FDSEA déversait ses ordures devant les préfectures pour dénoncer les errements d'une agro-industrie qui extermine autour d'elle une bonne partie du vivant, eh ben là on irait tout de suite beaucoup mieux, voilà. Mais enfin, sur le chemin, il y a Monsieur Travers, et comme son nom l'indique, et oui, c'est comme ça. On pourrait parler de plein de choses comme ça, mais alors quand même, maintenant...
Oui, le résultat des courses au bout d'un an, Denis.
Eh ben, le résultat des courses, interdiction du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, oh, ça c'était au mois de mai, on dit oui.
Extension de l'interdiction des néonicotinoïdes, oui aussi.
Là, depuis 3 jours, ils essaient aussi de renverser la vapeur sur le glyphosate pour le remettre dans les bidons dans les 3-5 ans.
Mais pas d'obligation de vidéosurveillance dans les abattoirs, là, on est un peu faible.
Oui, ben, pourtant ce serait un très bon programme de télé-réalité, hein, ce serait pas pire que les autres, hein, faut bien le dire.
Une légère insuffisance également de la qualité de l'air.
Là, vous avez qu'à respirer une fois sur deux et puis on n'en parle plus.
Oui, je vais y penser. Une autorisation également de la bioraffinerie d'huile de palme de Total.
Alors là, mauvaise pioche. Hein. Difficile de lutter, c'est vrai, quand on vend des sous-marins à la Malaisie et des rafales qu'on a dans le catalogue à proposer. Les forêts tropicales et les orang-outans peuvent aller se rhabiller.
Pas comme le projet Europa City qui est relancé.
Ah bah oui, on a Bure aussi, on a soutien l'extension de Disney.
L'autorisation du contournement autoroutier de Strasbourg et de Rouen, comment dire...
Bah on dit pas. Abandon de Notre-Dame-des-Landes, là on va dire quand même bon point.
Oui, et puis bah l'alignement de la fiscalité diesel sur celle de l'essence, c'est un bon point aussi.
Haute progressive de la taxe carbone, bon point également.
Et l'abandon de l'objectif de 50% du nucléaire 2025
d'ici 2025. On avait dit qu'on n'en parlait pas, ça c'est on oublie.
Ah,
on oublie
ça. Je voulais en parler.
Je suis désolé. C'est quasiment un gros mot ça maintenant.
C'est vrai.
Alors le CETA, le projet minier de la Montagne d'Or en Guyane. Alors là on lui a dit bon, écoute, tu te fais un peu d'indignation, mais c'est vraiment service minimum. Hein. Nous on veut que ça se fasse. C'est beau, c'est gros, c'est climaticide à souhait. C'est tout ce que l'on aime.
Bon allez, pause dans le projet Lyon-Turin, quand même un petit bon point.
Alors Nicolas Hulot donc carré sur ses convictions personnelles, mais aux épaules parfois frêle face aux équipes de Matignon et de Bercy en première ligne, et passé après des années de documentaires planétaires, de sa fondation à la télé-réalité au cœur de toutes les contradictions. Alors ligoté à son poteau de solidarité gouvernementale, il est percé comme Saint-Sébastien de mille et une flèches, de toutes les impatiences, haines, rancœurs et déceptions des archers du court terme. Va-t-il avoir le temps de voir plus loin et de tenir le coup avant d'aller lui aussi danser avec les loups ? Et je vous signale donc que vous avez le site Reporter hein, qui analyse tout ça, donc sur le site de CO2 Mon Amour. Et puis vous avez aussi le numéro du 1 hein, d'Éric Fautorino, qui est toujours très très bien fait, cet hebdo. Et bah là aussi, il y a une belle interview hein, de Nicolas Hulot. Il a aussi essayé de voir quelle est la cohérence, le libre arbitre que cet homme peut encore avoir. Le menu, je vous l'ai donné, donc parole de jeune, on va avoir Frédéric Danhué, on va avoir un bol d'air en Corrèze, nous aurons Philippe Bertrand. Et tenez, une initiative tout à fait positive qui est intéressante parce qu'elle vient en fait d'une citoyenne. Elle s'appelle Myriam Trélu et nous allons partir à Rennes. Alors à Rennes, je ne sais pas si vous voyez, alors c'est le centre de Rennes, c'est très beau. Le jeudi soir, il y a des étudiants un petit peu partout. En dessous d'un gramme 5, c'est pas possible. Et puis on va redescendre le long de la Vilaine, vous avez l'ancienne poste qui est là. On arrive face à cette rivière et avec vous Myriam Trélu, eh ben, on va s'intéresser au jardin flottant. Bonjour à vous, qu'est-ce que c'est les jardins flottants s'il vous plaît ?
Bonjour Denis. Un jardin flottant sur la Vilaine, en fait, c'est un principe de radeau mais végétalisé. Donc début juillet, il y aura 650 mètres carrés de jardin sur la Vilaine.
Donc l'idée, c'est de faire pousser ces petits radeaux. D'un point de vue écologique, à quoi vont-ils servir ?
Alors, entre autres, effectivement, il y a une fonction de dépollution, effectivement, de l'eau, mais c'est aussi reverdir, en fait, et amener du végétal, en fait, en plein cœur de centre-ville.
Alors, c'est initiative citoyenne, comment est venue cette idée ?
Alors, effectivement, c'est dans le cadre du budget participatif. La ville de Rennes, en fait, depuis 2015, a initié une fabrique citoyenne où les habitants de Rennes peuvent déposer des projets. Je suis rennaise d'adoption, en fait, et j'avais, en fait, une image de Rennes qui n'était peut-être pas suffisamment végétale en plein cœur du centre-ville, ce qui est complètement faux. Donc, j'avais un toc, une envie d'une ville vraiment jardin, en fait. Et j'ai commencé à travailler sur un projet qui était donc plutôt sur des jardins partagés. Et puis, quand j'ai regardé ce qui s'offrait juste en face de chez moi, j'ai vu la Vilaine et je me suis dit pourquoi pas transposer ce projet-là sur l'eau. Et avec un deuxième temps sur la réaménagement d'une fontaine qui clôture en fait ce projet-là et un troisième projet toujours dans cette continuité qui était une balade, un principe de rambla où on allait pouvoir se promener à hauteur de la cime des arbres pour avoir un point de vue en fait sur ces jardins. Voilà, ces projets en fait sont nés vraiment autour de la Vilaine et après pour pouvoir avoir plus de chances en fait de remporter peut-être un projet, j'ai décidé de les dissocier.
Myriam Trélu, moi je suis ce petit radeau, je suis sur cette Vilaine. Bon, évidemment qu'il va y avoir des courants qui vont fluctuer et puis il va y avoir donc des hauteurs d'eau qui vont fluctuer. Comment ça va se passer ?
Alors effectivement, c'est là toute la difficulté du projet, c'est qu'on n'est pas sur un étang ou sur un lac. Donc on est vraiment dans une configuration où il y a des fluctuations qui peuvent être assez importantes, de l'ordre de 3 mètres. Donc au niveau technique, en fait, il y a eu tout un travail avec l'équipe de la ville de Rennes, la direction des jardins, qui pendant 2 ans, en fait, a réfléchi à la structure qui allait pouvoir accueillir ces jardins sans qu'il y ait de soucis. On a accroché ces jardins, en fait, au quai.
Et puis, vous avez aussi tout calculé pour que les péniches puissent se croiser, donc sans perturber le côté voie navigable. Donc là, on en est à la première phase et on va y avoir 3 autres coussins, 3 autres radeaux. Donc, ça va être début juillet qu'on va pouvoir les voir.
Tout à fait. En fait, là, il y a eu 2 premiers radeaux qui ont été mis à l'eau. Et là, comme on a des conditions météo qui sont un petit peu difficiles en ce moment, en Ille-et-Vilaine, je crois que vous avez entendu parler de ça. Donc, pour l'instant, le chantier, en fait, est mis de côté là pendant la semaine, le temps que la Vilaine aussi se calme, justement. Les 2 prochains vont être mis à l'eau au 15 juillet. Normalement, tout devrait être mis en place. Et après, il va falloir attendre un petit peu pour que la végétation, en fait, pousse et se développe. Donc, on aura des jardins qui commenceront à avoir un côté esthétique plutôt courant septembre-octobre.
Myriam Trélu, qu'est-ce qui vous motive ?
Alors en fait, je pense que c'était parti d'une idée toute simple, en fait, une idée assez personnelle par rapport à ma ville, ce que j'avais envie. Et puis en fait, je me suis prise au jeu. On se rend compte que ça marche, que des citoyens peuvent déposer en fait des projets. Et j'ai eu la chance, c'est vrai, avec cette équipe de la ville de Rennes, de travailler et d'être associée en fait au comité de pilotage. On avait des comités de pilotage à peu près tous les mois la première année. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voir aussi tout l'envers du décor et de construire avec la ville ce genre de projets qui ont quand même un intérêt général.
On vous remercie de tout cœur et puis à très très bientôt. Merci Myriam.
Merci Denis.
Voilà, une initiative citoyenne qui nous paraissait intéressante parce que donc là ça a été écouté donc par la municipalité. À suivre Frédéric Danhué et aussi Elsa Kissel avec une parole de jeune qui s'intéresse à une pétition qu'elle a envie de nous proposer. Ce sera d'ici quelques minutes. Après qui, Jen?
to Luke Danacho.
Things gonna be
sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on.
Things gonna be
vient de Toulouse, c'était Jen, et puis elle a eu un très bon prof d'anglais, elle s'est dit, on va chanter en anglais, des origines malgaches, c'était donc Jen Allwright, choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Eh bien, il va falloir les assommer,
ouais.
Et les tuer, bien
oui.
Entendu,
aïe,
voilà.
Aïe.
Alors, pour les tuer, viens là ma biche, viens là ma biche, viens là. Là, il ne faut pas être en grande tenue, hein.
Eh oui.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Tu ne reviendras plus.
Sur France Inter.
Oui, là on n'était pas à Toulouse, on était du côté des Landes avec Maïté qui devrait présenter une mission végane bientôt, normalement c'est ce que j'ai eu comme information. Alors cher Frédéric Danhé, on va s'intéresser donc à l'actu avec, on va aller du côté du merveilleux palais du Luxembourg.
Oui, le
Sénat.
Voilà, il est fidèle à lui-même, hein, le palais du Luxembourg, c'est Napoléon III décongelé sous Pompidou.
Ah oui, ça commence fort là.
Et ça commence fort, ben oui, mais
c'est
si
une
vous
formule,
voulez...
mais c'est
une jolie formule, mais oui, mais ils se caricaturent eux-mêmes. Si vous voulez, bon, les sénateurs, alors... enfin en tout cas la grosse minorité de sénateurs qui est à peu près revenue sur tout ce qui...
Décryptez-nous la partie actualité donc, de ce projet de loi agriculture et alimentation, c'est cela. Hein.
Voilà, on parle bien de ça. Ben, globalement, tout ce qui était un peu avancé en matière d'environnement a été retiré, retoqué à coup d'amendement par une minorité, enfin une grosse minorité de sénateurs LR.
Ça s'appelle une majorité, ça ou pas? Une grosse minorité.
Ouais, mais enfin bon, les histoires de vote, c'est compliqué.
Oui,
bon,
alors,
on va dire une majorité, voilà, une majorité relative LR. Ils sont revenus sur à peu près tout. Ils sont revenus sur l'interdiction des glyphosates à l'horizon 2020, c'est ça. Ils sont revenus sur l'extension de la définition des néonicotinoïdes. Vous savez, ces insecticides que n'aiment pas du tout les abeilles. Et au départ, le gouvernement voulait étendre cette définition à de nouveaux produits susceptibles d'être mis sur le marché. Ils sont revenus sur la volonté gouvernementale d'imposer 20% de produits bio dans les cantines scolaires. Ils sont même revenus sur, comment dirais-je, une modification de la loi relative aux transactions commerciales entre les agriculteurs et la grande distribution, et même entre les agriculteurs et ceux qui leur vendent, tout en prétendant les conseiller sur les pesticides.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on essayait de découpler le conseil et la vente en ce qui concerne les pesticides.
Alors,
c'était ça l'idée, quoi.
C'est ça. Alors finalement, c'est un peu flou, on parle plus de conseil spécifique, mais stratégique. Bon, enfin bref, on est revenu là-dessus.
Non, mais attendez, parce qu'on a eu une députée quand même au téléphone.
Au téléphone, qui nous a dit, de toute façon, ça servira pas à grand-chose, parce que les boîtes qui fabriquent les pesticides sont déjà en train de créer des vrais faux bureaux d'études, des vraies fausses sociétés de conseil pour qu'effectivement le conseiller, le consultant de l'agriculteur porte un autre nom et ne soit pas salarié directement par l'entreprise qui fabrique des pesticides. Et puis quant aux négociations avec, vous savez, c'était la fameuse inversion de la formation des prix. Initialement, c'était les associations de producteurs, des organisations de producteurs qui étaient censées fournir aux grands distributeurs leur prix de production. Sauf que c'est quasiment impossible à faire parce que les agriculteurs sont tellement gavés de subventions qu'eux-mêmes ont du mal à dire quel est leur prix de production. Donc, bref, on laisse faire les organisations de producteurs. Sauf que dans la nouvelle loi, enfin dans les amendements portés par les sénateurs, on parle même plus d'organisations de producteurs, on parle de coopératives. Alors qu'on sait très bien que les coopératives, les plus grosses notamment...
Qui sont des gros outils financiers.
Qui sont des gros outils financiers.
Qui n'ont plus grand-chose de mode coopérative, surtout quand on est...
Plus des coopératives du tout. Et notamment pour les plus grosses...
Quand on est fournisseur et client en même temps. Quoi.
Exactement. Et en fait, les agriculteurs reprochent aux coopératives à peu près les mêmes choses qu'ils reprochent à la grande distribution. Et puis surtout, le prix final... Il sera facturé et la facture sera émise par l'acheteur et non pas par le producteur.
Je ne comprends pas, parce qu'en général, lorsque vous produisez, c'est vous qui émettez une facture.
Eh bien, pas là. Dans la grande distribution, dans l'alimentaire, ça a toujours été comme ça. Sauf que là, c'est entériné. Donc, à la fois, on prétend inverser la formation des prix, sauf que le prix sera de fait facturé par l'acheteur. C'est complètement aberrant. Mais derrière tout ça, faut-il s'en inquiéter? C'est amendement sur amendement. J'ai regardé la liste, c'est hallucinant le nombre d'amendements qui ont été votés. Sachant que, qu'est-ce que défendent en fait les sénateurs? Ils défendent leur existence. Les sénateurs sont élus par les collectivités locales. Les collectivités locales, par exemple, ont une peur bleue de l'introduction du bio dans les cantines scolaires parce qu'elles estiment que ça leur coûterait plus cher et qu'elles ne trouveront pas les ressources.
Alors que on le prouve aujourd'hui, ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai du tout. Donc les sénateurs, ils ont fait de l'agitation pour prouver qu'ils existent, alors même que de toute façon en commission paritaire, parce que la loi va ensuite passer en commission paritaire Parlement et Sénat, la plupart de ces amendements seront supprimé. Alors, est-ce qu'il faut croire que le Sénat ne sert pas à grand-chose? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, cette agitation est le signe d'une grande fébrilité. C'est assez inquiétant, mais en même temps, ça n'est pas tant que ça, parce que le Parlement reprendra la main.
Ils ne vont pas vous inviter à déjeuner tout de suite, mais c'est pas grave.
C'est dommage, on mange bien au Sénat.
Ça c'est vrai, ça mange très bien. 01 56 40 40 35, c'est les messages.
Bonjour, c'était Sébastien Clément de l'École du Jardin Planétaire de La Réunion, une université populaire créée en 2013. Nous organisons pour tous les citoyens des ateliers, des conférences, des sorties terrain, projections, expositions aux quatre coins de l'île toute l'année. Nous proposons aussi des formations en jardinage bio, en multiplication des plantes et en aromathérapie. En février dernier, nous avons lancé une application mobile pour les arbres remarquables. Elle s'appelle Moabi, comme l'arbre, elle est gratuite. L'objectif de cette démarche est de montrer que la technologie peut aussi nous servir à préserver notre patrimoine vivant. Moabi est un outil innovant permettant un référencement participatif par les citoyens sur n'importe quel territoire. L'idée est d'accompagner les inventaires en cours et d'aider celles et ceux qui souhaiteraient en créer de nouveaux. Nous recherchons donc des partenaires en Europe pour développer l'outil et accélérer le référencement des arbres. Si vous travaillez sur un inventaire ou un projet en cours, contactez-nous via le site de l'école www.écoledujardinplanétaire.re. Merci, à bientôt.
Bonsoir Denis. Écoute, je croise des scarabées dorés au bois de Graffin, j'y habite pas très loin. Donc si jamais un jour tu as vraiment envie de faire un petit reportage sur des choses un peu insolites à Paris, ben, on a des jolis scarabées dorés au-dessous des acacias. Il y a plein de libellules au bois de Graffin. C'est super. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller loin pour se faire du plaisir, se rincer l'œil et se rincer les oreilles. Et puis merci pour tes émissions Denis. J'espère que tu n'es pas loin l'année prochaine. À bientôt.
Non, on sera pas loin. On va vous retrouver le 1er septembre. Et d'ailleurs aussi, j'ai des sujets à préparation du côté des cimetières. Parce que là, à Paris, vous avez une faune, on le sait, une flore absolument incroyable. Ah, allez, Elsa Kissel est là, c'est formidable.
Parole de jeune.
Alors, parole de jeune, bonjour Elsa Kissel.
Bonjour Denis.
Vous avez une petite trentaine d'années, vous avez fait Sciences Po, là aujourd'hui vous êtes dans l'agronomie et vous avez lancé avec déjà 30 000 signatures une pétition qui s'appelle « Pour la transparence sur les pesticides ». Voilà, on fait un peu le lien avec ce que disait Frédéric Danhé. D'abord, c'est parti d'où personnellement et qu'avez-vous voulu faire là?
Ben en fait, je me suis posé une question toute simple il y a quelques années, c'était est-ce qu'il suffit vraiment d'éplucher une pomme pour en enlever tous les pesticides, comme on l'entendait souvent. Et là, au bout de quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé un rapport qui m'expliquait qu'en fait, non, ça ne suffisait pas, puisqu'un fruit qui avait grandi, qui avait été produit avec des pesticides, les gardait dans sa chair. Donc à partir de là, je me suis dit, bon... il manque quelque chose. En tant que consommatrice, en tant que citoyenne, j'ai envie de savoir. Et je suis peut-être pas la seule à avoir envie de savoir. Donc j'ai décidé de lancer une pétition sur le site Mes Opinions pour inviter les gens qui veulent s'exprimer à signer. Et mon but, c'était d'interpeller les parlementaires, d'interpeller les ministres. C'était en début 2017. petit à petit, la pétition a pris de l'ampleur. Et je me suis dit, il faut trouver une occasion de la mettre en valeur. Il faut trouver une occasion de faire entendre la voix des citoyens qui l'ont signée.
Et là, c'est le moment, donc, avec la loi sur l'alimentation, enfin, l'agriculture et l'alimentation.
Exactement. Il y a eu les états généraux de l'alimentation fin 2017. Donc là, j'ai fait une proposition sur la base de la pétition. À l'issue de ces états généraux de l'alimentation lancés par le gouvernement a présenté un projet de loi. Et ce projet de loi a été présenté en janvier. Je me suis dit, super, il va y avoir ma proposition dans le projet de loi. Et en fait, non, elle n'avait pas été reprise. Mais ça a été l'occasion pour moi de d'écrire des amendements, d'essayer de transformer la pétition en loi et de la proposer à des parlementaires.
Alors Elsa Kissel, on veut en savoir plus. Effectivement, on a donné le titre pour la transparence sur les pesticides. Concrètement, qu'est-ce que ce serait? J'achète un produit, qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Oui, en effet, qu'est-ce que c'est que la transparence sur les pesticides? En fait, c'est la transparence sur les pesticides dans nos aliments. En tant que consommateur, beaucoup d'entre nous avons envie de savoir quelles sont exactement les substances qui sont dans les aliments qu'on achète. Ça pourrait prendre plusieurs formes. Alors moi, je suis une citoyenne, je veux savoir, je ne suis pas une spécialiste.
Mais... il y a déjà les ingrédients. Mettons, si vous prenez une boîte de gâteaux secs, vous avez déjà les ingrédients. Simplement, le blé qui a servi donc, à fabriquer ces gâteaux, on ne va pas forcément vous indiquer qu'il y a eu des pesticides. Et c'est là que vous voulez qu'il y ait un peu plus d'informations.
Exactement. Petit à petit, on a eu de la transparence sur, par exemple, les conservateurs, les différents E. C'est une information qui est donnée et qui est pertinente, en fait, parce que les gens, à partir de là, ils peuvent aller faire des recherches sur Internet. En discutant avec les députés pour essayer de leur proposer mes amendements, qu'ils ont repris avec les sénateurs également, une des critiques qui a été, à mon avis, les plus faibles qui a été faite, c'est qu'il ne faudrait pas donner cette information aux consommateurs parce qu'en fait, ça risque de leur faire peur. Alors, j'ai l'impression en tant que citoyenne que, étant en démocratie, le premier pas, c'est de donner l'information, de la rendre transparente. Et ensuite, il existe des outils sur Internet qui permettent d'aller chercher si cette substance est toxique ou non.
Frédéric.
Mais en même temps, est-ce que ça servira à grand-chose? Comme vous l'avez dit, il y a des E partout, ils sont indiqués partout. Il y a même la mention aujourd'hui des formes nanoparticulaires de certains E, notamment le E571, et pourtant les gens continuent à acheter.
Ils continuent à acheter, mais au moins, ils sont informés. Et en fait, les gens qui vont vouloir aller plus loin, et il y en a beaucoup, beaucoup qui commencent vraiment à s'intéresser à leur alimentation, vont avoir la possibilité d'aller sur Internet. Par exemple, un organisme de gouvernement a mis en place un site Internet qui s'appelle IFI, E-PHY, et qui recense toutes les substances, pesticides, etc. Donc à partir du moment où on a l'information sur l'aliment, on va pouvoir aller dans cette base de données et comprendre ce que c'est.
Alors la suite, très rapidement, parce que là, en fait, on est dans une actualité pour vous.
On est complètement, effectivement, dans une actualité. Il faut savoir que le texte a été voté à l'Assemblée il y a quelques semaines. Voilà. Il est maintenant au Sénat. Et il va être examiné au Sénat à partir de mardi 26.
Et là, il y aura votre amendement ?
Il y aura mon amendement, mes amendements qui ont été repris par une trentaine de sénateurs. Et on a lancé, avec un site qui s'appelle lobbycitoyen.fr, un outil d'interpellation des sénateurs. On peut leur écrire par mail et leur demander si on en a envie qu'ils soutiennent les amendements.
Alors, plus de 30 000 signatures. Vous avez sur le site de CO de Mon Amour, vous avez votre pétition aussi. Donc, si vous souhaitez le signer, faites-le. Je signalais aussi qu'actuellement, il y a du côté du Sénat, grâce à Joël Labbé, entre autres, tout un travail sur l'herboristerie, qui essaye de faire passer quand même des idées aussi là-dessus. Et voilà. Donc, je disais que c'est un sport de combat, mais en fait, c'est ça. Restez avec nous. On va prendre un grand bol d'air, comme on aime dans cette émission. On va partir, justement, rencontrer un homme qui s'intéresse très fortement à l'herboristerie parce que, il va nous emmener du côté des monédières.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by.
Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
C'est fait pour craquer une chanson pareille. Ben ouais, Louis Armstrong, il n'a pas marché sur la Lune, mais il a fait des tas de choses formidables. Ah, attendez, l'air là. On va respirer, vous allez voir.
La balade de Denis Chessou.
Oh, le beau bâtiment là, Jean. Ici, dans ce comptoir d'herboristerie, il a une histoire.
On ne peut pas l'appeler bioclimatique, mais il est conçu suivant des proportions. Quand il fait 40 degrés à l'extérieur, il fait 20 degrés à l'intérieur. Il est entièrement fait en bois du pays, en Douglas et en mélèze, et n'a reçu aucun traitement.
Alors là, on a des odeurs fabuleuses. Je vois de la menthe poivrée, de la marjolaine, de la myrte, du noisetier, de l'origan. Alors tout ceci, évidemment, ne peut pas venir du Limousin, j'imagine.
De 3 à 5% suivant les années, qui viennent du Limousin, un peu plus large jusqu'aux Charentes-Maritimes maintenant. Et le reste vient beaucoup de productions françaises et du monde entier pour certaines plantes, comme la badiane ou comme la verveine, qui vient d'Espagne ou du Maroc.
On a des grands classiques, bien évidemment. La vigne rouge, excellent pour la circulation, c'est ça?
Oui. La vigne rouge française, là, en l'occurrence, sur lesquels on travaille depuis très longtemps pour avoir des qualités de ramassage et des qualités propres, puisque la vigne a un temps très court pour être ramassée au moment où elle tourne, avant de chuter, donc la feuille tombe. Ces plantes demandent beaucoup d'applications. Là, c'est un caisson de déshydratation. Ce matin, ils viennent de ramasser le calendula, là, et dans quelques jours, la plante va se déshydrater dans le noir.
Nous sommes dans le sud-ouest du Massif Central, nous sommes en Corrèze, dans les Monédières, 800-900 mètres, vous avez le Sucomec au-dessus de la tête, et puis là-bas c'est un peu comme si vous ouvriez une boîte et puis vous avez de l'air qui sort avec évidemment les influences de l'ouest, mais aussi un petit courant d'air du nord qui est extrêmement vivifiant. Alors, il a un beau nom cet homme, Jean Maison, et tout petit, un homme lui a sauvé la vie, il lui a donné le secret des plantes. Alors il a créé à Saint-Augustin le comptoir d'herboristerie. J'avais très envie qu'on retrouve cet homme dans son univers en forme d'hirondelle. Il est de la terre et il a besoin de ciel, de soleil, de pluie aussi fidèle pour faire pousser à la fois des mots, des végétaux, des idées. Et puis il cherche le végétal dans son berceau. Voilà, être en mouvement de la vie, dans la transformation des choses, c'est vraiment le grand truc de Jean Maison. On a des roches cristallines sur ces monédières. Le granit est à fleur de terre. On a donc ce parc naturel régional des mille vaches, donc dans ce Limousin. Et donc cette rencontre avec Jean Maison, ça va relever, on va dire, du champ naturel. Allez, suivez-nous en Corrèze. Et là, on est devant l'un de vos champs. C'est du blé ?
C'est du blé noir. Alors, il a une particularité, c'est que c'est une variété qu'on a sauvée, qui était abandonnée, qui avait subi, en tout cas dans les blés noirs locaux, de très forts mélanges, et là, et qui donnait des matières qui nous intéressaient peu. Et on a réussi, en remontant les sources locales, à trouver une variété que nous utilisons à deux fins. Une, la moisson, bien sûr, pour faire le grain de blé noir qu'on utilise ici dans ce qu'on appelle le tourtou, la galette de blé noir. Et d'autre part, on travaille beaucoup sur la sommité fleurie, qui a de multiples qualités médicinales.
Oui, donc c'est coup double, on va dire.
Voilà, mais surtout, ce qui me plaît,
Bien sûr, garder une espèce.
Mais c'est de maintenir quelque chose qui est vraiment dans l'esprit du pays. Alors les monédières ont une caractéristique c'est qu'elles ont évolué de façon extrêmement rapide à partir des années 50. Tout simplement parce qu'il y a la déprise agricole, oui. Après-guerre, ça avait commencé déjà après la guerre 14. Mais
donc les hommes sont partis.
Les hommes sont partis, les fermes se sont fermées, les paysans pour vivre se sont agrandis. La production a été modifiée, nous avions ici des fermes avec des vaches limousines, mais qui étaient à la fois 3, 4 vaches, 5 oui. vaches, 10 vaches dans les plus grandes mmh. exploitations sur le petit territoire. Et surtout, c'était l'agropastoralisme, et qui était l'héritage, là par contre, de siècles et de siècles, d'agropastoralisme. Et la Bruyère, la lande à Calune, que nous évoquons aujourd'hui et qui est très fortement menacée, cette lande à Calune,
c'est le cours du mouton.
C'est ça. Mmh. Et c'est l'adéquation entre un univers végétal et une pratique agricole. Mmh. Et avec la fin du pastoralisme et l'intensification des herbages, nous avons perdu progressivement la lande. Puis est venu se greffer là-dessus, ce qu'on peut comprendre par ailleurs, la nécessité de rentabiliser le territoire avec les plantations massives, la sylviculture qui a été mise en place et qui progressivement a remplacé la lande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la lande, se sont développées évidemment toute une faune, une flore, et surtout un certain type de paysage qui conférait au territoire un espace extrêmement ouvert, ouais. embrassable. Parce que ça reste une montagne qui est à portée d'homme, qui est embrassable. Ouais. Et quand on est face à cette grande ouverture, ça réjouit quand même.
On est sur un sous-sol quand même qui est extrêmement riche.
Vous le voyez au témoignage des maisons, qui sont ces maisons de pierre de taille, ces maisons de granit. On est passé au village de Fresselines tout à l'heure. Vous avez vu ce qu'on appelle la maison des Anglais, qui est une merveille d'architecture. 16e, 17e, on a des témoignages bâtis qui montrent justement à la fois l'intelligence paysanne. Regardez ce morceau de mur, on s'arrête devant ce morceau de mur. Mur en pierre sèche, bâti comme ça vient, mais avec l'intelligence de la pierre et l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que, et en plus là on a l'intelligence de la mousse. Et ces trois intelligences qui donnent tout d'un coup quelque chose de magnifique, de beau, d'harmonieux. Et l'homme a compris l'usage et le parti qu'il pouvait tirer de son espace, comme il l'a fait de par le monde d'ailleurs.
Alors aujourd'hui, avec le comptoir d'herboristerie, quel sens vous donnez, vous, à ce passage sur Terre?
Provisoire.
Oui.
La plante, c'est la vie. La plante est toujours vivante. Et notre travail, c'est d'aller chercher le végétal dans son berceau, dans sa nature, et faire en sorte que cette plante reste dans une énergie qui est son énergie première, de façon à ce que la personne qui à un instant T va boire sa tisane rencontre quelque chose, un petit événement, ce tout petit événement, et c'est là où nous pouvons être utiles dans cet accompagnement-là.
Qu'est-ce qu'elle éclaire, Jean, cette eau, hein ?
Elle est translucide, on voit les sables, on voit les graviers, on voit la... Et tu vois, là, on est à vif, ouais. sur le rocher, puis on passe dans les gravières, et on a des petits gours, mmh. on a les enracinements, on a ce pont, ce petit pont en pierre qui a été posé comme ça. Ce sont des lieux qui sont à notre portée. On va mettre les pieds dans cette eau, elle va être froide, elle va nous saisir, mais elle va nous faire du bien. Le dialogue s'installe immédiatement.
Quelle est votre réflexion aujourd'hui sur l'écologie qu'on voit ?
Ce qui manque à l'écologie aujourd'hui, dans ma réflexion que je porte, c'est qu'il me semble qu'on peut fabriquer une écologie matérialiste, c'est-à-dire une mécanique. C'est-à-dire que nous nous concentrons sur notre bien-être, notre forme, notre beauté.
Notre moi, quoi.
Notre moi. Oui. Notre... Oui. Écologie, elle doit venir du cœur, elle est cordiale. Et d'autre part, l'écologie, elle est aussi dans le bon sens. Il faut revenir à la tradition paysanne de l'observation, du comportement, de la sensation, de l'impression personnelle. Et ça, il faut se le laisser vivre, il faut pouvoir donner cet accès au plus grand nombre. D'autre part, nous avons une dimension spirituelle qui est absente. Or, on ne résout pas toutes les questions par la mécanique. Il manque une dimension dans cette écologie qui devrait tenir compte de valeurs qui sont beaucoup moins distinguables, beaucoup moins évidentes, mais qui pourtant sont évidentes en notre fort intérieur. Et justement, la nature est là pour nous faire douter. D'abord douter de nous-mêmes et nous renforcer, quand on l'observe finement, de notre vulnérabilité à tout niveau. Quand on est au sommet des Monédières ou au creux d'un chemin, à un moment, nous pouvons nous abstraire et nous regardons ce que d'autres ont vu hors du champ matériel. Et nous sommes en présence de l'être dans son intemporalité. Et nous sommes nourris de façon indirecte par tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous englobe. Et si on se met à disposition, si on se met dans l'odeur, là bientôt la bruyère calune va refléter cet arôme de miel, c'est une véritable bénédiction. On va être nourri, soigné dans notre petit quotidien. Nous sommes des bien portants, pour ceux qui le sont bien sûr, mais qui ont besoin d'être guéris.
Et on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer ici une écologie de l'âme.
Oui, on peut pratiquer une écologie de l'âme. Et quand nous prenons le temps de retrouver cette spontanéité du pas, ce retour naturel de la respiration, de dégager un peu les épaules, cet arbre qui n'est pas beau, cet arbre pas beau, par rapport à quoi ? Eh bien, parce qu'il n'a pas un fût extrêmement droit, etc. etc. Mais cet arbre, il a pourtant sa valeur, sa présence, et il procède à la concordance. Et l'homme là-dedans n'est pas un intrus. L'homme là-dedans est bienvenu quand il reste à sa place et qu'il fait ce... Je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais couper d'arbres.
Non.
Je ne suis pas un adversaire du progrès.
Non, c'est juste le balancier qui est parti un peu trop loin. C'est
voilà.
Tout. C'est beau tous ces verres là qui sont... C'est beau, là, toutes ces nuances de mousse, bon, ce qui nous donne une indication quand même au niveau de la pluviométrie. Hein,
oui.
on reçoit quand même ici.
Ah oui, Dieu merci.
Et alors justement, l'agriculture en a besoin. Et comment vous voyez donc, vous, cet avenir ?
Aujourd'hui, nous représentons 4% de la population agricole. Il faut que l'agriculture biologique reflète une véritable révolution agraire qui me semble absolument nécessaire. Mais pour ça, il ne faut pas en parler de façon radicale. Il faut prendre le monde comme il est. Et prendre le monde comme il est, c'est considérer qu'aujourd'hui, nous sommes encore ultra minoritaires. Mais la paysannerie, c'est ce qui a modélé le territoire. Et aujourd'hui, il faut intégrer ce paramètre écologique sur du très long terme. Il faut donc que l'industrie, les acteurs de l'ensemble des filières considèrent que la matière première, la ressource, c'est l'élément clé fondamental de la vie de demain. À la fois du bien-être et de la nourriture et de la santé des individus. Et cela va créer ou renforcera la position de l'agriculture, de l'agriculteur dans son territoire. Puisque ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est la déprise agricole, en moyenne montagne, en montagne, la perte d'intérêt, la recherche d'une hyper-rentabilité qui, de toute façon, tôt ou tard, on finira toujours par trouver des gens qui feront encore moins cher que nous, alors on va jusqu'où ? L'agriculture biologique, ça n'est pas un retour en arrière, c'est le lancement de quelque chose de nouveau vers une société nouvelle, qui intégrera à la fois la conscience d'une agroécologie qui est responsable vis-à-vis de ceux qui viendront après nous, qui boiront l'eau de nos rivières, qui mangeront le pain de nos champs, etc. Mais également de la valeur culturelle du territoire. Parce que la valeur du territoire, c'est la valeur du paysan. Aujourd'hui, nous, avec nos tisanes, on offre de l'eau chaude ou tiède, voire de l'eau froide. On peut dire, on vous invite à mettre une petite... un petit peu de citron, goutte de citron frais ou un peu de miel. Et on dit, vous allez avoir une boisson avec une plante dont le goût, vous allez devoir l'établir ce goût. Vous allez devoir le rechercher puisqu'il ne va pas vous provoquer, il ne va pas vous agresser. Il ne va pas venir vers vous comme quelque chose comme ça, là, qu'on vous assène comme un coup de maillet. Aujourd'hui, nous avons des boissons hyper agressives autour de nous. Et nous avons formé notre goût à cette forme d'agressivité et cette surenchère dans l'arôme, de façon à quoi ? À masquer quoi ? Notre peut-être incapacité à distinguer la subtilité et la nuance d'une infusion de tilleul des baronnies. ou de thym sauvage, des garrigues de Sisteron, ou de la bruyère des Monédières. Donc, là comme nous dans ce chemin, ces fleurs de châtaignier tombantes qui sont en fin de chemin de leur vie de fleurs, mais qui nous offrent là une subtilité aromatique qui est sans borne.
Bon, que peut-on vous souhaiter, Jean, maintenant que nous soyons disponibles au moins un tout petit peu tous les jours, même dans les villes, parce qu'il y a des beautés dans les villes. Oui. Et parfois, elles sont plus visibles dans les villes que pour certains qui vivent à la campagne et qui ne les voient plus. Hélas, bien que les cœurs s'ouvrent et que nous soyons en situation de transmettre.
Jean Maison dans les Monédières, dans le Limousin en Corrèze, du côté de Saint-Augustin, et donc avec ses herbes et son comptoir d'herboristerie. Je pense que cette parole nous a fait du bien. Voilà, à savourer. Eh ben, nous avons un Philippe Bertrand qui n'est pas loin. Et juste avant, chanson.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Si tu t'en vas.
Ferré, mais repris par À quoi Serge, si tu t'en vas, sur France Inter, CO2, mon amour. Ah oh ouais, on a le temps, là, un petit message. 01 56 40 40 35.
Bonjour, CO2, mon amour. Un message du collectif des attrapeurs de rêves et de l'association Défi Patrimoine. Rejoignez-nous le 24 juin à la Maison du Parc, à Théméricourt, dans le Vexin français, pour une journée d'information et d'animation, zéro déchet, zéro phyto. L'exposition « Zéro déchet et éco-gestes » que nous y présentons, très ludique, participative, multimédia, qui se développe sur 200 mètres carrés, y sera visible. Elle est d'ailleurs visible jusqu'au mois de novembre 2018 et elle partira ensuite en itinérance. Pour nous trouver, vous tapez « Attrapeur de rêves, créateur d'univers ». À bientôt.
Attrapeur de rêves, c'est joli ça. Frédéric Danhé, avant de rejoindre Philippe Bertrand, oui, qui chauffe au téléphone tranquillement. Si nous parlions, allez, petite actualité assez rapide sur la biodiversité, où en sommes-nous entre des plans nationaux, entre des stratégies nationales?
Oui, bon, on n'y comprend pas grand-chose. Bah, du coup, les régions prennent les choses en main. Elles y sont un peu obligées, certes, depuis la loi MAPTAM. Elles ont la responsabilité en matière de biodiversité. Il y a des régions qui vont beaucoup plus loin que les autres, notamment la région Pays de la Loire, qui a établi une stratégie régionale de biodiversité. Alors, c'est pas du greenwashing.
L'Aquitaine galope aussi là-dessus.
L'Aquitaine est juste derrière avec cette espèce de laboratoire d'idées qui s'appelle Ecobios, dirigé par Vincent Bretagnol, que l'on connaît bien. Donc, les Pays de la Loire ont réuni autour de la table tous les usagers de la nature, tous les services de l'État, toutes les collectivités, les représentants des entreprises. Et en six thèmes, notamment sur le foncier qui parle beaucoup des sols, le sujet qui me tient à cœur, eh ben, ils ont établi des objectifs à atteindre compte tenu de l'état de la biodiversité, avec un chiffrement à chaque fois des actions qui ont été établies, notamment une énorme action en matière de communication vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des écoles. Ça n'a l'air de rien, mais il y a 5 ans, c'était impossible, cette affaire-là. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein d'une région qui prend ses responsabilités, la biodiversité est devenue un objet social et donc un acteur politique à part entière. C'est-à-dire que si tout va bien, les élus de la région Pays de la Loire considéreront dans des projets d'urbanisme la biodiversité au même titre que les autres questions sur la qualité de l'air, sur le bruit, sur les eaux pluviales. C'est-à-dire que ça devient un sujet banal. C'est quand même une sacrée avancée.
Oui, vraiment.
Vraiment, et derrière tout ça, donc il y a l'Aquitaine qui est en train de suivre, qui est en train de faire le même type d'étude qu'elle a menée sur la réaction de la région Aquitaine, Grande Aquitaine, au changement climatique, des études qui avaient été conduites par Hervé Le Trotte. Et bien là, elle fait la même chose sur la biodiversité. Derrière tout ça, c'est la biodiversité est un acteur social, est un acteur économique, et l'oublier nous coûtera très cher, nous, politiques. Moi, j'estime que ça va loin, que, ben voilà, moi, ça me réjouit, Denis.
Mais oui, mais comme vous êtes réjouis, vous serez réjouis aussi le 1er septembre, peut-être, ou en tout cas début septembre, pour revenir dans cette émission.
Ah, hein, bah oui, il y a des chances. Je me réjouis d'avance.
On va continuer donc à décrypter avec vous donc toutes ces actualités comme vous le faites si bien. Alors, l'ami Philippe Bertrand, bah, il est déjà quasiment en vacances, hein, avec ses carnets de campagne, ça fait 12 ans. Donc 12 ans de carnet de campagne. Évidemment, c'est une manière de faire différemment, on va dire, du capitalisme, en montrant que nous sommes aussi des animaux sociaux, collectifs, partageurs autrement. Et, cher Philippe, bonjour à vous. Vous avez sorti donc ce manifeste pour demain. Et on voit beaucoup d'initiatives dans tous les sens. Mais justement, est-ce que tout ceci, Philippe, est-ce que cela fait sens?
Bonjour Denis. Alors je vais te répondre, oui, ça fait sens, mais d'abord localement. Après 12 ans d'expérience, il y a eu des décisions gouvernementales, des lois en faveur de l'économie sociale et solidaire, fin juillet 2014, de façon à cadrer juridiquement l'ensemble des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des entreprises qui obtiennent un label ESUS, un label d'entreprise d'utilité sociale, mais avec très souvent un relâchement d'intention. Parce que, on va dire, le quotidien, les affaires quotidiennes, l'Europe, l'économie nationale, l'économie mondiale prennent le dessus. Alors on va dire c'est normal. Sauf qu'on oublie la force de frappe que représentent tous les acteurs du local, qu'ils soient engagés environnementalement parlant, qu'ils soient engagés socialement, économiquement, culturellement. Cette foule, je dis c'est une armée aujourd'hui, quand on dit à peu près 2 300 000 salariés de ce secteur. Pour être honnête, c'est 1 800 000 équivalents temps plein, mais c'est vraiment très important déjà. Et le local est, à mon sens, une vraie réponse aux défis de demain. Tu parles très souvent, et à juste titre, de transition énergétique, de transition écologique. Tous ces acteurs-là ont pris conscience de ça.
Et puis ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, je le rappelle, Manifeste pour demain, c'est que on parle très souvent de cette fameuse diagonale du vide, hein, c'est-à-dire qui part du nord-est, oui, qui arrive au sud-ouest. C'est-à-dire qu'il y a 8% de la population qui habite sur 42% du territoire. Alors, c'est vrai que l'on voit plein de panneaux à louer ou à vendre très souvent dans ces communes. Mais à côté de ça, ça bouge, quoi. Les gens se disent, bon, allez, je ne sais pas si le ciel va nous aider, mais nous, en tout cas, on va essayer de s'aider.
Alors je peux te donner un exemple, parce que je l'ai suivi très récemment, qui s'appelle Projet en campagne. Il s'agissait en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas une des régions les plus souples en matière de législation et d'aide sociale et, ou environnementale, de fédérer 10 comités de communes qui chacune ont à charger une mission, ont des logements passerelles pour des personnes qui viennent de la ville de Lyon, de Paris, de Lille ou d'ailleurs, de l'Europe, et qui sont preneurs soit d'un commerce, soit d'une entreprise à créer, soit d'un service à instaurer dans une commune plutôt rurale. Et on voit la portée de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des collectivités qui reprennent la main en disant « il faut agir ». Le système dans lequel on vit, perte de dotation publique, éloignement, grande métropole qui absorbe beaucoup d'économie et d'emplois, nous avons le devoir de réagir. Et cette réaction, je la trouve très saine, parce que on est en train de réguler et d'instaurer une forme d'égalité des territoires dont on se cause depuis de nombreuses années, on a un ministère pour ça, une commission déléguée, ça avance, mais ça avance pas assez vite, et à nouveau, c'est l'embonpoint du CAC 40 qui prend le dessus. Donc aujourd'hui, ces réactions locales sont les plus saines, et surtout, elles apportent des solutions à des maux globaux, c'est-à-dire à des maux nationaux, à des problèmes d'emploi, des problèmes d'habitat.
Avec ces 12 ans de carnet de campagne, Philippe Bertrand, est-ce qu'il y a un exemple justement environnemental, la plus écologique, qui concerne CO2 Mon Amour, que tu pourrais mettre en avant ?
C'est un jeune entrepreneur du Gard qui vient s'égarer dans le nord Côte d'Or, limite Tonnerrois, donc tu vois, entre Lyon et, et la Côte d'Or, et qui était très intéressé par l'utilisation écologique du chanvre. Le Grand Est reste une des grandes plateformes de production en Europe de chanvre. Sauf qu'on ne sait pas trop quoi en faire encore ici. Et lui a déposé un process qui consiste à faire des couvertures en chanvre de production maraîchère, horticole ou agricole, sous forme de rouleaux. Et le process qu'il a inventé, c'est un process qui est à base uniquement de projection d'eau, qui permet de créer un vrai tapis de tiges de chanvre. Donc il n'y a pas d'adjuvant, etc. Évidemment, tout est recyclé. 30 hectares de chanvre ont été replantés autour de, ressemés autour de son entreprise. Et il a déposé son process dans 140 pays. Il a créé 8 salariés. On n'est pas, à nouveau, c'est pas le CAC 40, mais 8 salariés sur des zones où tu as 7 habitants kilomètre carré, c'est une aubaine.
C'est énorme.
C'est exceptionnel. Tiens, il y a un tracteur qui passe.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui. Et on va le saluer. Alors justement, ça nous fait aussi une petite liaison pour reparler quand même de ce joli petit coin du Châtillonnais dans lequel tu es, parce que tu aimes profondément cette Bourgogne et cette Côte d'Or.
Oui.
Sous les yeux, qu'est-ce qu'il y a là dans le paysage de Philippe Bertrand qui le réjouit depuis son enfance?
Bah, des rosiers dans ma petite cour. Il y en a partout. Je les entretiens chaque année. En face, c'est la verdure, c'est-à-dire que je suis dans le village, mais la forêt est à deux pas. C'est-à-dire que je peux me balader dans les sous-bois, en cinq minutes j'y suis, croiser un chevreuil, un lapin de garenne, et voir les busards tourner en rond dans le ciel en attendant la proie idéale. Des sentiers de balade, un sentier exceptionnel de cigogne noire, qui est un des derniers refuges de cet oiseau qui est très préservé aujourd'hui, et puis un patrimoine architectural. Alors effectivement, des vieilles maisons à retaper. Maintenant, l'aubaine, c'est, tu parlais de la diagonale du vide. Dans la diagonale du vide, il y avait les zones blanches avec quasiment aucune communication, très peu de numérique, c'était même pas du bas débit, c'était du sous-bas débit. Là, maintenant, effectivement, les départements de toutes les régions ont pris la main également pour essayer de développer la fibre optique dans toutes les communes, y compris les communes rurales.
Bah, grand merci, Philippe.
Merci à toi.
Bonnes vacances, bon Châtillonnais, bonne Côte d'Or, bonne Bourgogne. Et évidemment, on se retrouve à la rentrée, de 12h30, 12h45, au tout début septembre.
Avec plaisir, et continuez à nous faire respirer le bon air.
Manifeste pour demain. Bah là aussi, bouffer l'oxygène, qui nous fait découvrir les vertus des démarches locales qui privilégient le vivre ensemble et la solidarité. Terre Sauvage, notre partenaire Terre Sauvage, je vous y retrouve tous les mois. Mais là, vous avez un numéro de juillet qui est sur les Cévennes. Donc, amis Cévenols, et si vous ne l'êtes pas, peu importe, si vous aimez ce lieu, Terre Sauvage de juillet qui vient de sortir sur les Cévennes. Je vais vous retrouver avec Frédéric Denry, ce sera ce soir à 20h. Ça s'appelle la télévision. La chaîne, ça s'appelle Ushuaïa TV. Il y a un magazine que j'ai le plaisir d'animer et nous serons avec Pierre Rabhi, qui est très souvent décrié, etc. Bon, classique, mais donc...
Dont il faut entendre les paroles.
Mais il faut entendre les paroles.
Il pense sagement, ce garçon.
Merci à Camille Blanès pour toute cette saison. Notre assistante merveilleuse, Xavier Pestugia, non moins merveilleux. Bon, j'arrête avec ça. Qui réalise l'émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites. Donc, on se retrouvera le 1er septembre. Mais avant, eh ben, vous aurez tout l'été à 14h, le samedi et le dimanche à 14h. Brigitte Patient avec Regardez voir, avec son appareil photo en bandoulière. Le podcast, vous en avez l'habitude. L'Atu du bon petit loup, ça continuera pendant tout l'été. Et puis quoi d'autre? Ben non, vous souhaitez évidemment un excellent week-end et un très bel été.